Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Et de Wani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
Destitution du président de la transition et de son premier ministre. Quelles conséquences sur la transition? C'est le thème central de ce grand dialogue. Ce mardi 25 mai, le vice-président de la transition a annoncé avoir démis le président de la transition et son premier ministre Mokhtar Wane de leurs fonctions. Une annonce intervenue au lendemain de l'arrestation des deux personnalités, elle-même survenue après la publication de la liste du nouveau gouvernement. Pour parler de cette situation, nos invités, tous des spécialistes de questions politiques, Boubacar Boukoum, Mohamed Agassori et Daouda Kinda. Moi, je suis Mariam Maïga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Quelle analyse faites-vous de cette situation, Daouda Kinda?
Destitution, moi je ne dirais pas destitution, parce qu'une décision, c'est un processus juridique. C'est une cour, la haute cour de justice en soi, dans la constitution malienne, qui peut destituer un président.
Mais le premier vice-président vient de démettre le président de la transition.
Dans leur communiqué, j'ai cru voir qu'ils ont dit textuellement qu'ils ont mis le PM et le président hors de leurs prérogatives. Les mots ont leur sens. Il faudrait qu'on plose sur ça. Par rapport à ça, la situation, moi, je dis que ce n'est que la résultante de tout ce qui s'est passé depuis le 18 août. On a vu que tout le processus a été bâclé. Il y a eu un coup d'État, certes, le 18 août, mais la situation a été rattrapable. On pouvait rattraper la situation d'une manière ou d'une autre s'il y avait une vraie inclusion, une vraie attente autour des problèmes et des problématiques de la nation au Mali. Mais on a vu malheureusement qu'il y a eu des partis pris et que la charte elle-même qui prévoyait la création de certaines institutions comme le CNT, le président, dont les choix devraient être consensuels à défaut d'être légal, parce qu'il faudrait qu'on le dise, on n'est plus dans la légalité au Mali depuis très longtemps. Tout ce qui se fait, c'est hors les constitutions. Du moment où la constitution de 92 n'a pas été abrogée, le 18 août, ce serait impossible qu'il y ait des constitutions dans un pays. Donc, moi je dis, cette situation était prévisible et c'est désastreux qu'on puisse continuer dans ce sens. Et il y a beaucoup, beaucoup de signaux qui nous montrent qu'on n'a pas fini avec cette crise-là.
Boubacar Boukoum, vous êtes d'avis que cette situation était prévisible?
Oui, bien entendu. Depuis très longtemps, nous avons dit que si la transition dépassait le cap des 6 mois, qu'il allait avoir un gap, parce que d'abord, il n'y avait aucune vision à la clé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le 18-19, nous avons en son temps acté plutôt que c'était une mobilisation civile ou militaire, une mobilisation générale. Mais cette fois-ci, nous sommes en plein pied dans un coup d'État. Cette fois-ci, c'est un coup d'État qu'il s'agit. Parce que la déclaration qui a été faite sur l'ORTM, prétextant qu'on a enlevé au Premier ministre et le président de la transition ses prérogatives, n'est autre chose qu'un putsch. Donc cette fois-ci, nous acceptons de consommer un coup d'État dans la réalité. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans cette démarche, c'est que ce qui va faire échouer fondamentalement les deux transitions, hein, nous avons déjà prédit que Mokhtar Wane 1 et Mokhtar Wane 2 allaient être un échec patent. Maintenant, nous nous trouvons dans une autre procédure. 1, 2 échecs, on est à 3. On ne sait pas qui va être le prochain sur la liste pour remplacer Mokhtar Wane. Mais ce qui est évident, dès lors que le leadership n'est pas affiché et qu'il n'y a pas de vision, techniquement, c'est un échec qui est là. Parce que là où la transition était attendue, c'était sur le volet d'abord sécuritaire, les réformes institutionnelles profondes et ensuite la relance de l'économie. Et sur ces 3 points, c'est un échec patent parce que une fois que la demande du citoyen s'affirme dans une gouvernance de transition, soyez sûr que c'est un échec dès lors que vous n'avez pas la capacité interne de mobiliser les ressources, vous n'avez pas aussi la capacité de demander des ressources externes additives pour permettre de résoudre un certain nombre de problèmes qui est quotidien, qui est la gouvernance locale. Donc de ce point de vue, cette transition, si elle ne se rectifie pas très tôt, nous sommes sûrs d'aller directement dans le mur.
Mohamed Agassori, quelle analyse faites-vous des événements de lundi et de mardi dernier?
Bon, ce qui s'est passé les 24 au 25, c'est vraiment très difficile de les qualifier. Est-ce que nous sommes dans un coup d'État? Parce que classiquement, un coup d'État, c'est lorsque une autorité, elle peut être militaire, elle peut être civile, met fin à un régime démocratiquement élu. Et c'est dans quoi nous sommes actuellement. C'est après un coup d'État, bien sûr, du 18 août, on assiste quand même à un coup de force de l'armée, et notamment de l'ex-junte, contre les autorités qui ont été désignées dans la foulée, c'est-à-dire du 18 août, de façon consensuelle. Donc peut-être c'est un cas pour ceux qui étudient les sciences politiques ou pour les juristes de nous édifier sur cela. Mais je pense que c'est un pas en arrière parce que nous sommes, je vous le rappelle, dans une situation très critique. Nous sommes dans une phase transitoire. Et nous sommes dans une période où c'est l'avenir du Mali qui se joue, qui se jouait, hein, mais qui se joue plus maintenant. Pour moi, c'est vraiment un échec de la classe politique. Parce que quand vous avez des militaires dans l'arène politique, quand ce sont les militaires qui dictent les rythmes institutionnels, les rythmes constitutionnels, peut-être entre guillemets, ça veut dire qu'il y a un échec de la classe politique. Par ailleurs, il y a également un grand échec. Ce dernier me désole beaucoup parce que depuis 2018, peut-être depuis 2013, nous sommes en manque de dialogue sincère entre nous, Maliens. C'est triste, hein, de le dire aujourd'hui, le Mali qui a toujours été vanté comme étant le pays où il y avait des valeurs quand même sociales qui sont restées, comme la fraternité, comme le dialogue, etc. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une phase où personne ne se parle, où les gens se parlent mais ne s'écoutent pas, où les gens s'écoutent mais ne se comprennent pas. Et malheureusement, notre pays ne mérite pas cela. Nos citoyens qui sont l'autre Mali, les Mali des zones reculées, ne méritent pas cela. Et c'est la classe politique qui est interpellée. Aujourd'hui, c'est vraiment trop, c'est trop. On ne peut pas continuer comme ça. Ou depuis 2013, ou même avant 2013, hein, depuis le coup d'État de 2012, où à chaque fois que quelqu'un ou un groupe de personnes se sentent frustrés, ils prennent en otage la destinée collective. Ils nous mettent 10 pas en arrière. Peut-être on ne va pas blâmer les militaires seulement. Cette responsabilité, elle incombe à nous tous. La société civile n'a pas joué son rôle. Les religieux qui doivent être les visibles ou qui doivent être quand même les régulateurs n'ont pas joué leur jeu. Et la société civile est restée miette. Et les populations sont désemparées. Nous sommes vraiment dans une situation très critique. Et je pense que...
Situation très, très critique.
Et un dernier point, ce qui s'est passé directement la dernière fois, c'est vraiment difficile. Vous savez, la cohabitation entre militaires et civils, c'est difficile tant que les premiers ne sont pas sous les ordres des seconds. On a vu les cas au Burkina Faso, on l'a vu au Mali ici à 2 ou 3 reprises, où à chaque fois c'est une cohabitation très très difficile. Donc... on peut saisir, parce que tout handicap ou toute difficulté est une nouvelle opportunité, on peut saisir vraiment cette opportunité-là pour avoir quand même un minimum politique. On ne peut pas tous être d'accord, même sur ces plateaux, on ne peut pas être d'accord sur beaucoup de choses. Mais l'essentiel, c'est qu'on participe à ces débats-là pour les tenir bien. Je crois que tel doit être le cas aussi pour l'avenir du pays.
Alors, pour vous prendre au mot, ce premier tour de table, d'aucun vous avez tantôt parlé de coup de force, échec des négociations, un pas en arrière, est-ce que la non-reconnaissance des colonels Sadio Camara et Modibo Kone en est pour quelque chose dans cette situation, Modibo Kinda, Daouda Kinda?
Moi, je dirais bien oui. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il faut savoir que il faut avoir un peu faire le tour de la dynamique même de ce coup d'État. Ce coup d'État, c'est une sorte d'imbroglio d'hommes en tenue, de corps différents, bien sûr, mais il y a quand même une sorte de consensus entre eux qui les ont amenés ici. Moi, je dirais bien oui, parce que Sadio Camara et Modibo Kone sont des poids très lourds dans le CNSP. Le CNSP, on peut le dire au passé, mais le CNSP juridiquement est dissous, mais moi, je dis que ça existe de fait. C'est ce CNSP-là qui a les rênes du pouvoir au Mali actuellement. Les gens ont tendance à oublier ça. On croit que Banda ou le PM... du fait qu'ils voyagent à l'extérieur avec tous ces tralala. On croit que c'est eux qui ont le doigt sur la gâchette. Ce n'est pas le cas. Ce coup nous montre réellement qui détient les rênes. Pourquoi ça? Moi, je dirais que ces militaires ont peur. Les gens ne savent pas ça, mais moi, je crois qu'ils ont peur. Le cas Sanogo a été d'une grande leçon pour beaucoup de gens, parce que Sanogo n'a pas été poursuivi pour avoir fait le coup d'État. Mais moi, je dirais, ces gens n'ont aucune garantie qu'après cette période transitoire, leur avenir sera assuré. Et mettre ces deux personnes à côté, ça peut réveiller des diables en eux. Donc moi, je crois que c'est le cas actuellement.
Boubacar Bokoum, je me dirige vers vous. Êtes-vous d'accord avec le vice-président quand il dit dans son communiqué que la charte de la transition a été violée dans la formation de ce nouveau gouvernement?
Écoutez, moi, je me porte même en porte-à-faux par rapport à cette charte qui vient supplanter une constitution. Donc, je ne me retrouve pas dans ce schéma. Mais c'est qu'il faut juste comprendre qu'en réalité, c'est M. Assimi Goïta qui est le président de la transition. C'est ça qu'il faut réellement acter. Il faut comprendre. Et ce n'est pas Sadio Camara ou Modibo Koné le problème. C'est parce que la concertation n'a pas concerné M. Goïta lui-même. Il s'agissait pour le président, dans l'architecture qu'ils ont concoctée ensemble, d'être en intelligence avec son vice-président. Et dès lors qu'il n'est pas en intelligence avec son vice-président, il y a une rupture. Et alors, les deux leviers sur lesquels il va plus tard agir, c'est vraiment M. Camara, Sadio Camara et Modibo, quand même, qui sont issus de corps où il y a des troupes. Donc, c'est une force réelle. Donc, par rapport à ce qu'il a dit, la configuration du putsch lui-même, ce que j'avais appelé en son temps mobilisation générale, était dans le contexte où, effectivement, le CNSP avait une dynamique collégiale. Donc, il va sans dire que si on veut aller à autre chose, qu'on se concerte, qu'on se parle pour aller à cette chose. Ça doit être la dynamique interne. Dès lors que monsieur le président, M. Ndao, n'a pas daigner aller dans ce sens, donc il vient en rupture de banc. Et cela est de bonne guerre. Maintenant, ce qu'il dit par rapport à l'assurance. L'assurance pour eux, dans un premier temps, c'était Badao qui était l'assurance. Parce que pour camoufler le coup du 18, il fallait avoir un civil à la tête et éventuellement un premier ministre. Et le civilo-militaire qui a été trouvé à l'époque, c'était M. Badao. Alors, on a amené un civil issu de la diplomatie malienne qui allait venir corroborer et donner une certaine coloration acceptable à cette situation. Donc, dès lors qu'il n'y a pas la vision définie et que le CNSP lui-même a son chronogramme à lui et la classe politique a aussi son chronogramme, donc il y a une dichotomie. Donc, si on ne se met pas, comme Agsori l'a dit, si on ne se met pas d'accord, si on ne discute pas, si on ne dialogue pas, on ne se dit pas les vraies vérités, et pour faire du néologisme dans ce sens, parce que de tout le temps, on a fait des concertations, soi-disant concertations, on a fait le dialogue national qui n'en était pas un, le déni a été un échec patent parce qu'on a compris qu'on a été charcuté. Quand les résolutions sont venues de la base, on a eu un deuxième déni bis à Bamako en ne tenant pas compte des réalités. Donc aujourd'hui, il va falloir repartir, écouter le peuple. Et ce qu'il a dénoté, c'est très important, à ce qu'il me semble, les communautés de localité ne se reconnaissent pas dans la gouvernance. Pour la simple raison que le modèle colonial que nous continuons à appliquer, le peuple ne se reconnaît pas. Donc, il faut aller à l'écoute du peuple. Donc, en réalité, vous ne pouvez pas gouverner des gens en ne tenant pas compte de leur opinion, en ne tenant pas de leur façon de comprendre. Donc, la gouvernance locale, il faut qu'elle soit prise en compte. Il faut que les communautés locales soient prises en compte si on veut réellement gouverner dans un système durable. Donc, aujourd'hui, ce qui est certain, la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est pourquoi je disais tantôt que c'est un putsch, parce que, contrairement à la définition académique, c'est de dire aujourd'hui que nous sommes dans une situation, parce que la première opération était de dire que le peuple avait réclamé quelque chose. 3 mois dans la rue, ce n'est pas rien par rapport au printemps arabe. Donc il faut aussi qu'on, historiquement, on révise le logiciel de la CEDEAO qui consiste à dire que la bonne gouvernance, mais ils n'ont pas joué leur rôle au niveau de la CEDEAO en n'imposant pas de la bonne gouvernance à nos dirigeants qui, soi-disant, sont élus démocratiquement. Donc la faute incombe à ce mécanisme. Donc aujourd'hui, le logiciel de la CEDEAO doit être mis à jour.
La CEDEAO, on va en venir. Okay. Il s'agit de savoir, Mohamed Agassouri, est-ce que certes, le vice-président dit que la charte a été violée. Est-ce que la charte donne-t-elle également des prérogatives au vice-président de démettre le président?
Oui, c'est très intéressant. C'est-à-dire, vous savez, vous avez parlé un peu de des causes de la situation. On a parlé de la non-reconduction de certains hommes forts de la junte dans le gouvernement. Vous savez, une crise politique, ce n'est jamais dû à une seule cause. C'est-à-dire qu'il y a une succession, c'est-à-dire qu'il y a, vous avez des petits trucs, ça et là. Et nous, depuis quelques mois, on a eu quand même certaines informations selon lesquelles le triumvirat Bandao ou bien l'Équateur, parce qu'ils sont quatre, Bandao, Assimi, Wan et Diaw, et ne fonctionnait pas très bien comme on le croirait, hein, sur les photos ou bien dans le journal de la télévision. Et il y avait quand même des petites bisbilles. Je crois que c'est venu dans un projet de nomination de certains ambassadeurs que le président a bloqué. On avait aussi appris qu'il y avait un projet pour augmenter les primes et indemnités d'un corps de l'armée que je ne vais pas citer ici. On aurait appris également qu'il y a beaucoup de cadres de haut niveau qui allaient être relevés, mais n'eût été le veto du président et du premier ministre. Donc, le mur de coopération avait commencé à fissurer. Et je crois que le gouvernement, ce gouvernement-là, Wandé, c'était quand même peut-être l'étincelle, hein, dans une salle déjà électrifiée. Maintenant, quant aux arguments politiques, vous savez, les hommes politiques, ils disent jamais les vraies raisons, hein, dans un communiqué officiel. Ils viennent pas dire que non, c'est parce qu'un tel ne m'a pas donné 3 milliards, non. Je crois que et l'un des problèmes, si on partait sur la base de la violation de la charte, je crois qu'une partie de la classe politique a dénoncé cela, même dans la constitution du CNT, mais je n'ai pas appris quand même que des militaires sont allés arrêter tous les membres du CNT. Et vous avez posé une très bonne question. Par exemple, quand on était dans la Constitution désigne son gardien, qui est la Cour constitutionnelle. Donc, en cas de problème lié à l'interprétation ou la mise en œuvre d'une situation constitutionnelle, on se réfère à la Cour constitutionnelle. Mais dans le cas de la charte, je n'ai pas lu cela, peut-être c'est par méconnaissance, mais on peut aller par extension pour dire que comme la charte aussi a certains attributs constitutionnels, cela doit être tranché par la Cour constitutionnelle, mais malheureusement les militaires ne l'entendent pas de cette oreille. Et le VP, vous avez bien fait de les rappeler, en se posant comme garant ou bien gardien de la charte, viole également la charte. Donc, on ne règle pas une violation par une autre, sinon on va se retrouver dans n'importe quoi.
Dauda Kinda, ces événements ne risquent-ils pas de prolonger la durée de la transition actuellement?
Je crois que dès le départ, la transition était sur cette mouvance de prolongement. Et déjà, les gens n'étaient pas d'accord par rapport à la durée. Certains avaient préconisé d'aller vers 2 ans, il y a eu 3 ans. Je crois par rapport à la concertation, beaucoup de chiffres ont été communiqués. 18 mois, je crois, c'était un fort signe de la CEDEAO. Tout le monde savait en fait que c'était impossible.
Mais dans le communiqué, quand même, ils ont assuré le peuple en disant que les élections vont se tenir à partir d'octobre.
Oui, parce que cela était
la raison.
C'était quand même, c'est impossible. C'est impossible. La question électorale, ça ne se réalise pas du jour au lendemain. Il faut un fichier électoral. La question de l'agence unique électorale n'est pas autant tranchée que ça. Et la classe politique est à couteau tiré par rapport à ça. Donc moi, je crois que les militaires, en fait, ils ne sont pas rodés pour cette bataille. Faire une élection dans un pays qui a les 2/3 de son territoire occupé, ce n'est pas donné à tout le monde. Il ne suffit pas d'avoir les armes pour le faire, non plus avoir je ne sais pas quel diplôme en sciences politiques pour le faire. Il faut connaître ce pays-là. Et cela me fait revenir un peu à ce que le grand frère Bokoum a dit. Il faut que le milieu rural, le Mali rural, soit concerté par rapport à nos problèmes. De 91 ans maintenant, tout s'est fait à Bamako. C'est des diplômés qui se mettent dans une salle, ils font des chartes qui ne respectent pas d'ailleurs. C'est un manque de respect par rapport au reste du pays. Donc moi, je crois que ça, c'est impossible. Par rapport, un peu pour revenir à ce que Aga Souri a dit par rapport à la violation de la charte, moi, je dis qu'il y a bel et bien une violation de la charte. La charte, elle n'est pas constitutionnelle. Je suis dans cette lignée, ou du même que Bokoum. cette charte ne peut pas s'accommoder avec une constitution légitimement et légalement votée par le peuple malien, la nation malienne. C'est une diarchie que j'ai jamais vu de toute ma vie, de toute ma petite expérience de juriste, je n'ai jamais vu ça. Mais quand cela ne tienne, le consensus peut prendre place à défaut de la légalité entière. Mais même ce consensus n'y est plus. Avec ce coup de force, ce consensus est à terre. L'article 4 de la charte, il y a eu beaucoup de versions, je ne sais pas quelle version est la vraie, mais celle que j'ai ici, l'article 4 dit que le président de la transition remplit les fonctions de chef de l'État, il veille au respect de la constitution et de la charte de la transition. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui devrait aller prendre le président, c'est le président qui devrait aller prendre quelqu'un qui violerait par exemple la charte ou la transition. Donc moi je dirais qu'à Assim, son rôle sera l'article 7 de la charte, c'est de se cantonner sur des questions de défense et de sécurité. Et bon, jusqu'à ce point, on ne l'a jamais vu sur le terrain, si ce n'était qu'à Farabougou.
Farabougou, temporairement.
Et ça, c'était manichéiste, selon moi. Et moi, je dirais, le problème du Mali par rapport à toute cette crise sempiternelle depuis 2012, moi, je crois qu'il va falloir refonder cette armée-là. C'est vrai, on parle de dichotomie par rapport à la société civile, la classe politique, mais l'armée n'est que l'image de cette division. Il y a une division plus patente dans l'armée que sur le reste de la scène politique malienne. Badaou, c'était prévisible, je l'ai dit au début, Badaou n'est pas de la même génération que la Assimi. On est un peu au courant par rapport à ce que cette vieille garde militaire pense de ces jeunes qui... du jour au lendemain, se retrouve généraux, alors que Badaou, lui, durant toute sa vie, il n'est que colonel, il est parti colonel à la retraite. Donc, il y a ce problème-là dans cette armée. Et cette fissure aussi est remarquable, est visible entre ces colonels qui sont vus comme étant des gens qui ont eu des coups de pouce pour aller à l'EMIA et autres, et les hommes de rang. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution à ça. Et malheureusement, aucun politicien de 92 ans maintenant a pris ce problème à bras le corps. Ils viennent, ils font des retouches, eux-mêmes ils jouent dans la caserne, eux-mêmes ils jouent le jeu, et après on se retrouve avec un coup d'État. Moi je crois que le Mali est en programmation perpétuelle des coups d'État.
La situation est là, on vit de cette situation. Actuellement le pays est sans président et sans gouvernement. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver maintenant, Boukoum?
Écoutez, il ne nous arrivera rien du tout parce que le système, il est rodé. Les présidents, c'est des politiques, c'est des gens qui doivent stimuler une vision. Maintenant, malheureusement, comme depuis un certain temps, nous n'avons même pas de vision, donc on ne peut pas parler de stimulus. Donc, les affaires courantes vont être gérées par les secrétaires généraux en attendant qu'on trouve une solution. Mais ce qui est dramatique dans notre situation, c'est que depuis un certain temps, nous sommes incapables de trouver un modèle de gouvernance. Ce que le jeune frère a dit est tellement réel que quand vous regardez par exemple dans les armées occidentales, vous voyez qu'il y a des grandes opérations où tous les corps participent à l'opération. Mais jamais, au grand jamais, vous n'avez entendu au Mali, même en termes de simulation de combat, que la garde républicaine, les bérets rouges, les forçats ont fait une opération conjointe. Parce qu'il faut que les gens comprennent, l'armée ne doit pas être divisée. C'est toute une entité avec des articulations différentes. Les forces spéciales, les commandos ont des missions définies dans un ensemble. Et nous n'avons jamais pu créer cette synergie. Tout le temps, les officiers supérieurs, suivant le corps d'appartenance, créent des fragmentations à l'intérieur de la structure. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut repenser. Ensuite, au niveau de la structuration même de la compréhension de la défense, nous avons un gros problème de gouvernance et de compréhension même du mécanisme de la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, on est toujours en train de parler de programmation militaire. Donc, on est dans la sécurité linéaire que militaire. Alors que l'expérience a montré aujourd'hui que la sécurité, elle n'est plus militaire. Elle est d'abord économique, elle est sociale et culturelle, et elle est administrative et politique. Donc, si tous ces éléments ne sont pas pris en compte de façon simultanée, et qu'on pense qu'en payant des armes, mais on ne peut pas atteindre aujourd'hui un degré d'armement comme celui des États-Unis. On ne peut pas atteindre un degré de formation comme les GIs. Et pourtant, ces mêmes pays qui se disent des grandes puissances sont frappés par le terrorisme, que eux-mêmes ont fabriqué d'ailleurs. Donc, Il est important de comprendre aujourd'hui que si on veut intégrer le mécanisme de défense, il faut assécher la mare. C'est-à-dire, là où on recrute le terrorisme, comment il faut assécher? Il faut trouver des mécanismes qui permettent aux populations d'être intéressées à la production économique et avoir un gain pour éviter d'être recrutées. L'injustice sociale, qui est le créneau aujourd'hui du terrorisme, parce que les Koufa et autres ont de la notoriété dans ces zones. Moi, dans mon village, pour faire la justice, on fait appel à des islamistes. Donc, l'État est où en ce moment? Mais si la justice, elle est mal distribuée, donc c'est ce que nous appelons la défense civile. Donc s'il n'y a pas la défense civile, la défense économique, la défense militaire en elle seule ne peut pas garantir la sécurité dans un pays. Donc il faut réfléchir à un système de défense stratégique de la nation au lieu de penser qu'en recrutant des jeunes de 18 ans, 19 ans, qu'on envoie d'ailleurs à la boucherie, parce que la formation militaire aujourd'hui ne permet pas de faire face aux à l'extrême violence que nous connaissons aujourd'hui au centre et au nord du Mali. L'équipement n'est pas adéquat pour faire face à une guerre asymétrique. Donc, il est aujourd'hui important que nos dirigeants y réfléchissent à quel genre de sécurité, à quel modèle de gouvernance il faut apporter au pays. Donc, si nous ne sommes pas dans cette logique, nous allons nous trouver dans une transition perpétuelle. Parce que la vraie transition, pour nous, on a toujours dit que la transition n'a même pas commencé au Mali d'abord. Parce que simplement, nous n'avons pas compris que le gouffre dans lequel nous a embarqué le mouvement démocratique, cette page, on doit la fermer. Si on continue toujours à réfléchir de la même façon que nos prédécesseurs, le mouvement démocratique continue avec le même mécanisme démocratique, ça veut dire que nous n'avons pas compris c'est quoi la transition. Aujourd'hui, il faut que nous actions une transition réelle qui va aller vers l'économie réelle, qui va aller vers un système de défense, qui va aller vers une gouvernance réelle. Et ça, c'est une nouvelle espoir que cela doit susciter. Et la transition, je ne suis pas totalement d'accord avec mon frère, parce que Monsieur Kinda, parce que la transition, nous, dans nos calculs, ne doit même pas dépasser 6 mois. Donc, techniquement, ils ont encore aujourd'hui 9 mois pour réussir la rectification. Maintenant, là où on a un problème, c'est qu'ils confondent une transition et la gouvernance. Parce que quand vous prenez l'article 39, vous voulez la gérer, vous voulez répondre au syndicat, vous vous installez confortablement dans la gouvernance, alors que c'est très inconfortable. Parce que vous n'aurez pas des ressources en interne, vous n'aurez pas de ressources en externe. Donc le problème, ce n'est pas la gouvernance. C'est de dire aujourd'hui à quel défi réel le Mali est confronté. On a un défi économique. Donc il faut trouver des actes qui permettent de relancer l'économie de façon réelle. Notamment, je prends les ressources naturelles sur lesquelles le Mali n'a pas d'emprise. Ça, c'est des décisions fortes qu'une transition peut prendre. La réforme institutionnelle, vous avez parlé des élections. Les élections, on les a truquées en 2013. On a fait des élections où, en réalité, c'est en catimini, on s'est mis d'accord que c'est possible ici, c'est pas possible ici, et on le fait, on l'accepte. Donc, ça, c'est le consensus politique qu'il faut trouver pour dire si les élections doivent se limiter à Bamako parce qu'il y a de l'insécurité sur l'espace, le reste de l'espace. On se met d'accord, on le fait à Bamako et c'est valable. Maintenant, les réformes institutionnelles. Quand vous prenez le modèle de gouvernance à Kidal, vous avez quelqu'un qui gère la communauté de localité suivant les principes de l'accord. Donc ça veut dire qu'il y a une dose d'autonomisation, il y a un modèle de gouvernance particulier à cette région. Et ça ne devrait pas l'être parce que l'article 2 de notre constitution veut que ce soit équitable pour tout le monde. Donc si on duplique ce modèle de Kidal aux autres régions du Mali, ça veut dire qu'on tombe dans un modèle fédéral. Alors, si on tombe dans un modèle fédéral, c'est de quel genre d'élection nous parlons en réalité? Est-ce que c'est un État unitaire qui s'accapare de toutes les ressources, qui exproprie les communautés de leurs ressources, de leurs terres? Ou est-ce qu'il s'agit d'aller à un modèle, effectivement, qui permettrait aux communautés de gagner et de développer localement leur localité? Alors, quel modèle institutionnel nous allons mettre en place?
La situation est là déjà. Nous sommes sans gouvernement. Le premier ministre et son président de la transition sont aux arrêts à Kati depuis lundi soir. Dans ce genre de figure, est-ce que le M5-RFP peut-il être un bon client pour sauver la transition, Mohamed Agassori?
Bon, sauver la transition, je ne le crois pas. Il faut être un messie pour sauver le Mali actuellement. À défaut,
vu qu'ils ont mené une lutte durant longtemps.
Oui, à défaut de tous les Maliens ensemble, je pense qu'il y a un seul parti, un seul groupement politique ou une seule corporation ne paie absolument rien. Une cohabitation aujourd'hui M5-CNSP, parce que le CNSP, comme le disait le frère Kinda, il est mort sur papier, mais il vit physiquement. une alliance M5-CNSP peut peut-être amener une accalmie, c'est-à-dire ces accalmies trompeuses, mais en bas, ça va rester toujours les mêmes tensions. Parce que, comme je le disais, peut-être je n'ai pas été très clair, le pouvoir, c'est une chose qui ne se partage pas, ou ça se partage très difficilement. Et même quand c'est partagé, il faut que ça soit inéquitable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les mêmes. Et je crois que les M5 ne l'entendraient pas de cette oreille-là, parce que les M5, jusqu'à preuve du contraire, pensent avoir les mérites de diriger. Et quand vous regardez d'une manière politique, un peu, vous regardez profondément les M5. Les M5, c'est un mouvement, en fait, qui est créé pour gérer un pays. Ils sont nombreux, il y a beaucoup de présidentiables, il y a beaucoup de premiers ministrables, il y a beaucoup de ministrables. Donc en leur donnant uniquement la primature, c'est pour créer des tensions entre eux. Est-ce que telle n'est pas une des stratégies des militaires? Mais je crois que les militaires aujourd'hui sont vraiment dans leur dernière chance. C'est-à-dire que c'est la dernière chance qu'ils ont. C'est les derniers tirs, il doit vraiment bien viser et s'assurer que toutes les conditions, c'est-à-dire sont réunies pour sauter. Parce qu'il n'est pas sûr qu'avec les pressions externes de la communauté internationale, les tensions internes, c'est-à-dire politiques au niveau interne, puissent leur faciliter la tâche. On parle de 18 mois. Ces 18 mois sont vraiment sacro-saints, c'est-à-dire ces 18 mois, il faut organiser des élections. Pourquoi des élections? C'est là-bas où on va un peu en arriver au paradoxe malien. Parce que ici, nous, avant les événements du 18, on a toujours dit qu'un président mal élu vaut mieux qu'un président non élu. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous n'avons pas de président élu, le président désigné n'existe plus et nous avons un président de fait que personne n'a choisi, qu'aucun Malien n'a choisi. Et je pense qu'il lui sera très difficile, sans consensus politique, de pouvoir les faire. Organiser des élections dans les 18 mois, c'est techniquement impossible. Parce que beaucoup de gens tendent à l'oublier. Et quand vous sortez aujourd'hui de Bamako, les Mali... parce qu'il y a quelques années, on parlait... Je voyais une carte d'un ministère des Affaires étrangères où on nous montrait une carte du Mali, une partie rouge. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, aujourd'hui, tout ce qui n'est pas les grandes villes est une zone rouge. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qui nous reste du Mali, c'est quelques points noirs sur la carte. Ce n'est plus... Tout est rouge en réalité. Si vous prenez Kaï, Sikasso, Bamako, Ségou et Mopti. C'est tout ce qui nous reste. Maintenant, organiser des élections, ça va être très difficile sur le plan sécuritaire. Et les Maliens, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va encourager un Malien de Ténankou, un Malien de Badjangara, un Malien d'Adjelhok pour aller voter? Pourquoi va-t-il voter? Pour quel État va-t-il voter? Et pour terminer, je voyais un ami qui rigolait hier sur les réseaux sociaux où il avait un de ses oncles qui lui demandait « Mais est-ce que c'est toujours Ibeka qui est au pouvoir ?» Il lui dit « Non, il y a plus d'Ibeka n'est plus au pouvoir. » Il lui dit « Mais qui est au pouvoir ?» Il dit « Bon, c'est une longue histoire parce que celui qui était au pouvoir n'est plus au pouvoir. » Ah, son oncle lui dit « Ben, tant mieux parce que de Ibeka à Tété, nous, on n'a jamais vu la différence. Donc, qu'il y ait changement ou pas, le Mali profond ne les ressent pas. » Donc, il y a toutes ces réalités-là. Donc, je crois que les militaires, pour leur existence même politique ou pour des garanties après, doivent organiser quand même ces élections-là pour juste nous permettre d'avoir un président élu. Maintenant, quant à la qualité de l'élection, c'est autre chose.
Dauda Kinda, comment voyez-vous la cohabitation actuelle entre M5 et RFP et la transition?
Cohabitation, moi, je ne dirais pas cohabitation. Il y a une sorte de... Le M5 a été mis au ban depuis le 18 août. Je crois qu'avec ce coup de force, le M5 est en train d'entrer, de revenir un peu sur la scène. Je le dirais de façon un peu maladroite, parce que le M5 apparemment n'a pas compris la leçon des événements du 18 août. Le lendemain ou le soir même du coup de force, c'est le M5 qui est monté à Kati. Ce même M5 était monté à Kati le 18 août en rang dispersé. Et cette fois-ci, selon les échos, il n'y a pas assez d'unanimité dans le M5 par rapport à qui doit prendre quel poste. Malheureusement, on en arrive à ce point encore. la question des postes. C'est-à-dire, ce qu'Agassori a dit par rapport au Malien lambda, c'est-à-dire le néophyte, qui ne connaît rien de tout ce qu'on fait ici, constitution, charte, il se demande qu'est-ce que ces gens diplômés, qu'est-ce que ces gens intelligents sont en train de faire de notre pays. Il faut dire que le Mali n'existe plus. Moi, je le dis carrément. Le Mali tel qu'on a connu, légué par nos ancêtres, n'existe plus. Cela est dû à quoi? Ça me ramène un peu aussi à ce que beaucoup me disent, c'est qu'il n'y a pas d'État. Nous, on a compris la démocratie d'une manière sémantique. La démocratie, ce n'est pas une fin en soi. Francis Fukuyama, le grand historien américain que moi j'admire beaucoup, disait, il dit, la démocratie n'a qu'un seul but, le développement humain. Une démocratie qui ne développe pas n'est pas une démocratie. C'est appelé à être exterminé, ce genre de démocratie. C'est ce qu'on est en train de répliquer depuis 1991. Et chaque fois que l'État est en but par rapport à une crise, on retourne en arrière et c'est-à-dire on met en place un cycle qui va aboutir à un autre problème. Moi, je dirais que l'économie est le nerf de tous ces problèmes. Il faut que le Malien sente qu'il y a des changements dans sa vie quotidienne. Tant qu'on n'a pas amené ces changements, on sera, c'est comme une sorte de cercle de gosse, on sera toujours au stade du départ. Donc, la cohabitation entre le M5 et les militaires, moi, je crois que c'est joué d'avance. Ça n'ira nulle part. Bandaou, le PM, on fait 6 mois. Moi, je ne donnerai pas 4 mois au M5 avec les militaires en place.
Boubacar Boukoum, vous l'avez tantôt évoqué, les différentes réactions suite à ce coup d'État, comme vous le qualifiez.
Absolument.
D'autres disent coup de force.
C'est élégant de leur part.
Nous voyons que des réactions fusent d'un peu partout. À quoi faut-il s'attendre aujourd'hui?
Non, il faut s'attendre à un échec patent de la transition. Vous savez, cette histoire est mal partie depuis le départ. Avant même qu'il y ait ce coup de force, comme je l'emprunte à Gassori, avant même qu'il y ait ce coup de force, nous savions déjà qu'une transition qui n'a pas une vision ne peut pas avoir de l'efficacité, encore moins de l'efficience. C'est impossible. Et nous avons compris que l'attelage rapidement qui a été mis en place par cette transition aux premières heures n'était pas capable. Parce que le M5 même, l'échec même du M5, il faut le dire, c'est qu'il n'avait pas de vision, il n'avait pas de modèle. C'est ce qui a manqué pour avoir l'unanimité autour. Parce qu'ils ont surfé sur la misère populaire, sur cette vague qui permettait effectivement en son temps d'avoir tout le monde autour de soi. Maintenant, le modèle qui devrait permettre de gouverner, la mauvaise gouvernance que nous avons dénoncée, quel est le modèle de normes de bonne gouvernance que le M5-RFP a proposé au peuple malien? Il n'y en avait pas. Tout le monde avait son calendrier caché dans sa poche. Et aujourd'hui, c'est vrai. C'est ce qui nous revient en boomerang. Donc, la réalité, c'est que s'il y avait un modèle acté, le peuple allait se liguer derrière le M5-RFP et le CNSP n'allait pas pouvoir les contourner dans la réalité. Donc, c'est cette réalité qui nous rattrape. Donc, si nous sommes dans la logique que le M5-RFP veut composer avec ceux qui sont là aujourd'hui, ça veut dire que c'est sans vision, c'est sans modèle, c'est sans une stratégie réelle de gouvernance. Donc, on va directement dans le mur. Ce que je vais dire, changer de gouvernement ne veut pas dire qu'on gouverne. Avoir une inclusivité ou une représentativité ne veut pas dire que l'on gouverne. C'est vrai, comme Agsori l'a dit, une accalmie apparente, baisser les tensions, contenter les uns et les autres dans un système de partage des gâteaux, oui, ça peut calmer les ardeurs à un moment donné. Mais en réalité, ce n'est pas de ça que le Mali a besoin. Le Mali a besoin réellement aujourd'hui qu'on puisse gérer les 3 points que j'ai précités tout à l'heure. Et ce que je vais dire, de toutes les façons, on ne peut pas rester sans faire une élection. Il faut qu'on soit objectif.
C'est-à-dire, s'agissant de ces élections, oui. La transition a annoncé plusieurs élections, 7 élections au total. Est-ce que c'est une priorité d'organiser ces 7 élections ou de faire uniquement la présidence à un gouvernement?
Vous savez, c'est la mauvaise lecture de la compréhension de la nouvelle architecture institutionnelle qui les pose d'énormes problèmes. D'abord, ils sont en train de partir dans tous les sens. Il n'y a aucune cohérence. Parce qu'en réalité, c'est pourquoi j'ai donné le modèle de Kidal. C'est pour dire, aujourd'hui, si les Maliens sont d'accord qu'on va vers le fédéralisme, on met en place un modèle fédéral, les élections, comment elles vont se faire localement, les députés, on va définir tout ça. Mais cette architecture n'existe pas. Nous avons pris un accord que nous avons signé, mais la conceptualisation a été faite ailleurs. Maintenant, la substance qu'il fallait mettre de façon intelligente à l'intérieur de l'accord, ce travail intellectuel n'a été fait
par personne. L'institution de la République, qui aurait dû nous donner sa vision, son interprétation de cet accord, n'existe pas, parce qu'il faut que l'État se prononce sur l'accord pour dire je suis d'accord avec telle chose, je pense que telle chose il faut la modifier et qu'il y a telle substance économique qu'il faut mettre à tel niveau ou à tel niveau. Ce travail technique n'est pas fait. Donc on a laissé l'accord comme tel, alors que l'accord n'était qu'une architecture qui allait permettre effectivement aux Maliens de mettre de la substance à l'intérieur. Et ce travail scientifique n'a pas été fait. Donc, de ce point de vue, vous allez voir que quand il parle d'élection, c'est pourquoi je me pose la question, il s'agit de quelle élection ? Si on veut faire les élections du président de la République, c'est de quelle république on parle ? Une république unitaire ? Une république fédérale ? Parce que ce n'est pas tranché, cette histoire. Nous avons une crise profonde qui a commencé par le Nord et qui a gangréné et qui est venue jusqu'au centre. Et aujourd'hui, le Sud, comme Aksori l'a dit, nous n'avons plus rien. Donc il faut qu'on redéfinisse cette nouvelle architecture institutionnelle. Et elle n'est pas faite. Elle ne peut se faire que dans un consensus réel. Donc il faut aller à l'écoute. Aujourd'hui, il faut des assises nationales qui sont souveraines. Si on veut arriver à quelque chose, quitte à prolonger la transition. Si de façon souveraine, nous mettons d'accord qu'il faut
ces
faire
assises, nous une nouvelle transition. Une situation qui est là, la CDAO est déjà dans nos murs, elle a entamé les discussions. Goodluck Jonathan a rencontré Assimi Goïta hier nuit. Il prévoit encore d'aller voir le président Banda ou le premier ministre Mokhtar Wane. Est-ce qu'il y a un éventuel bras de fer entre les militaires et la communauté internationale, c'est une bonne chose aujourd'hui?
Bon, c'est une très mauvaise chose pour les militaires, c'est une très mauvaise chose pour les Maliens et surtout pour les pauvres citoyens qui risquent de pâtir d'éventuelles sanctions et surtout que la situation économique du pays n'est pas de plus enviable. Et je crois que les militaires ne vont pas s'aventurer sur ce terrain-là. Sachant bien que le Mali aujourd'hui est sous perfusion de la communauté internationale, non seulement militairement, mais aussi économiquement. Cet agenda de Goodluck ressemble étrangement à celui de l'après 18 août, où il va rencontrer les différents acteurs, rappeler les grands principes de la CEDEAO, condamner et plaider pour une libération. Mais je crois qu'au niveau de la CEDEAO, la grande décision viendra des chefs d'État de la CEDEAO, qui, jusqu'à maintenant, je n'ai pas appris quand même qu'ils vont se réunir, mais qu'ils doivent se réunir. C'est eux qui vont trancher sur cette question-là, à la lumière aussi du rapport que Goodluck aurait à les faire. Et je crois que ces militaires, comme je le disais, ils n'ont plus droit à l'erreur. Ils peuvent peut-être essayer quand même de renégocier certains avantages, mais ce n'est pas gagné d'avance, vu MP, les condamnations qu'on voit ça et là, de France, États-Unis.
Ce n'est pas gagné d'avance, mais nous constatons que la situation, malgré qu'elle soit critique, se décante un tout petit peu. L'UNTM a décidé de lever hier soir son mot d'ordre de grève en attendant d'avoir un interlocuteur. Est-ce que cela pourrait arranger la situation d'Oda Kinda?
C'est du saupoudrage. Moi, je dirais que c'est du saupoudrage. L'UNTM était en grève. C'était la deuxième partie de la grève qui allait aboutir sur une grève illimitée. Moi, je crois que c'était un bras de fer qui avait plus à faire avec des prises d'ego, des anti-croches entre personnalités, qui est réellement un débat sur une problématique qui touche réellement, un corps professionnel ou quelque chose du genre. Moi, je ne crois pas que le fait que l'UNTM ait suspendu son mot de grève aurait un impact sérieux sur cette crise. Alors, par rapport à ce qu'Agasore a dit sur la CEDEAO, je me permets de revenir un peu là-dessus. Il faut dire que la CEDEAO, qui n'est que le pendant de la France, n'est plus dans cette position morale par rapport à tout ce qui se passe comme recul démocratique en Afrique de l'Ouest. Le cas guinéen, par rapport à la limitation des mandats de la Côte d'Ivoire, et le Tchad, bien vrai que le Tchad n'est pas dans la CEDEAO. Quand même, la France a cochonné ce qui s'est passé
au
Tchad.
Donc, je vous donne 30 secondes. Nous sommes au terme de ce débat.
Alors,
la situation est là. Que faut-il craindre, Daouda Kinda? Je commence par vous.
Que faut-il craindre? On en est déjà là. La crainte est déjà là. Ce n'est plus dans le futur, mais la crainte est là. On est dans un pays qui ne avance plus. Un pays sans président, sans PM. C'est-à-dire que le pays actuellement est décapité.
Le pays est décapité, vous êtes d'avis, Mohamed Agassouri?
Bon, Bon, le pays n'est pas décapité, mais l'architecture post-18 août l'est peut-être, mais une tête a été coupée, et deux têtes ont été coupées et une a poussé. Je pense que, comme il le disait, hein, on est déjà dans ce qu'il faut craindre, mais ce que je craindrais le plus, c'est vraiment une absence de consensus politique, et une absence de dialogue franc autour du minimum, parce que comme on le voit ça et là, l'émergence tout de suite d'un front anti-putsch renforcé par les frustrés des différents bords, renforcé par le front démocratique, risque d'être une grosse pierre dans les rangs de nos militaires.
Boubacar Bokoum, que faut-il craindre par la suite?
Non, je pense qu'il ne faut rien craindre, ils vont se ressaisir. De toutes les façons, ils n'ont pas le choix parce que l'étau va se resserrer. Les condamnations, c'est le levier économique en réalité. Sans l'apport des autres, c'est difficile de pouvoir tenir longtemps. Donc l'UNTM aussi a compris qu'ils sont en perte de vitesse. De toutes les façons, on ne peut pas continuer éternellement à être dans la rue. Et ne pas
merci à vous tous. C'est ce qui me fait un autre grand dialogue de ce soir présenté par Mariam Maïga. Nos invités étaient Daouda Kinda, Mohamed Aga Souri, Boubacar Bokoum, tous des analystes politologues. À la mise en onde, Sédou Ndao, régie vidéo Péting Diarra. Merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri. Halou Dmoni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.